a Marina. Bjot značit ljubit. S'il te bat, c'est qu'il t'aime. Proverbe russe. Vous dites, la vie est belle. Oui, mais ce n'est qu'une apparence. Pour nous, les trois sœurs, la vie n'a pas encore été belle. Elle nous a étouffés, comme de la mauvaise herbe. Anton Tchekhov, Les Trois Sœurs, 1901. Un soir de l'été 2018, chaussée Altufieva. Il n'est pas grand l'appartement. Un salon avec cuisine, deux chambres, une salle de bain, des toilettes. La tapisserie n'a plus de couleur. Jaune-marron, elle n'a pas été changée depuis les années Gorbatchev, quand c'était encore un appartement communautaire. Les rideaux en voile accrochés à la baie vitrée du salon ont la teinte du ciel blanchâtre des jours d'automne, du ciel qui porte la neige avant de la laisser tout recouvrir de Moscou. Les toits d'immeubles, les trottoirs, les arbres, les jeux des squares s'accumulent, identiques, d'un bloc à l'autre dans les quartiers périphériques déployés aux confins de la Koltsevaïa ligne, la ligne circulaire du métro. Au-dessus du buffet sont posées ou accrochées des dizaines d'icônes, de chapelets, de photographies de lieux sacrés, comme un bout d'église dans l'entrée. Il n'est pas grand l'appartement, beaucoup trop étroit pour elle et lui. Dans la chambre du père, un lit, un bureau, un fauteuil, une penderie. Pas de décoration, pas de cadre, pas de couleur. Dans la chambre des filles, un lit superposé et un lit simple, des affiches, des livres, des pots remplis de crayons, des vêtements posés à droite à gauche, un miroir, des autocollants en forme de flocons qui sont restés sur la fenêtre depuis plusieurs Noëls. Les trois sœurs sont allongées sur leur lit. Elles ont gardé leurs sous-vêtements, leurs leggings noirs, leurs t-shirts. Elles n'ont pas mis de pyjama ce soir. Elles respirent fort, fixent le plafond, ne se regardent pas. Dans le salon, les insultes de leur père depuis son fauteuil à bascule au velours beige et limé, le souffle haletant, la toux grasse. L'odeur de leur père, partout dans l'appartement, sauf sur leurs draps. Il n'a pas été là pendant un mois. Sa voix qui cogne les murs. « Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir trois gamines comme ça? Qui est-ce que vous avez invité chez moi? Vous allez voir ce que vous allez prendre ce soir. Vous allez avoir une bonne raison de gueuler, de chialer. Vous ne recommencerez plus après. » Sa voix qui grogne et qui claque encore, les pas titubants s'approchant. Les voix des filles, elles, sont blanches. Maintenant. C'est maintenant. Elles le répètent pour y croire, comme un programme, une ligne de code. C'est maintenant. Les trois paires de leggings sortent de leur lit d'enfant. Les jambes fines ne tremblent pas. C'est l'instinct. C'est ce soir. C'est maintenant. Christina, Angelina et Maria sont sœurs. Elles avaient 19, 18 et 17 ans le 27 juillet 2018 quand elles ont tué leur père, Mikhail Sergeyevich Khatchaturian. Leur mère, Aurelia Vassilievna Dindik, était allée voir la police à plusieurs reprises pour signaler des violences conjugales, avant d'être expulsée de l'appartement familial de la chaussée Altufieva en novembre 2014. Son mari avait eu beau la frapper au sein même du commissariat, les policiers n'avaient pas réagi, leur demandant de régler leurs problèmes chez eux. « Allez, du balai, et la prochaine fois ne venez pas nous faire perdre notre temps avec ça. » Des amis des trois sœurs, des voisins, des enseignants avaient plusieurs fois alerté les autorités. Imbu de sa puissance, le père empêchait souvent ses filles de se rendre à l'école. Aucune réaction de la police, des services de protection de l'enfance. Aucune. Cela aurait pu être juste un fait divers de plus, mais dans les médias russes et sur les plateaux de télévision, des proches de la famille Khatchaturian avaient commencé à témoigner. Les écouter, c'était se retrouver pour quelques fractions de secondes dans le huis clos d'un petit appartement du quartier résidentiel de Bibireva, à quelques pas de la station de métro Altufieva, dans le district nord-est de la capitale moscovite. C'était pousser la lourde porte en métal bleu du bâtiment, monter les quelques marches du hall d'entrée, tourner à droite, appeler l'ascenseur, grimper les 10 étages, traverser le corridor, entrer chez les Ratchatourian, se retrouver nez à nez avec les icônes et les chapelets pendus au-dessus du buffet, et assister sans voix à ce qui jamais ne devrait ni se dire ni se produire entre un père et ses filles. Des photos d'elle avaient été partagées encore et encore dans les médias, sur les réseaux sociaux. Des voix s'étaient élevées et leur histoire était devenue un symbole de l'indifférence des autorités et de nombreux citoyens face aux violences domestiques. Un an plus tôt, elles avaient été largement dépénalisées dans le pays. Les peines encourues étaient déjà minimes, mais il n'arrivait désormais plus rien à un mari violent. Les actes qui entraînaient auparavant une condamnation pour coups et blessures n'étaient plus passibles que d'une simple amende, placée au même niveau qu'un excès de vitesse. Une limite avait quand même été mise au cas de récidive et de blessures graves, mais pour que récidive il y ait, encore fallait-il un dépôt de plainte. Ce qui se passait au sein des foyers devait y rester. De nombreux Russes le pensaient. Pas tous, bien sûr. Il y avait quelques associations, des activistes, des avocats qui se battaient pour dénoncer cet état de fait et réclamer une nouvelle législation. Mais beaucoup voyaient d'un mauvais œil tout ce qui ressemblait de près ou de loin à ce qui se pratiquait à l'Ouest. La libération de la parole autour des violences faites aux femmes, le mouvement MeToo, c'était le symbole de la faillite de l'autorité morale qui menait à leur perte les sociétés occidentales. En Russie, il y avait ce proverbe qui disait « Bьёт, значит любит ». S'il te bat, c'est qu'il t'aime. Et les proverbes, c'est comme le passé. Quand on ne sait plus où on va, on s'y agrippe pour se persuader qu'on est du bon côté. Je connaissais ce proverbe parce que j'avais commencé à apprendre le russe en classe de seconde, à 14 ans, un peu par hasard. J'étais scolarisée dans un petit collège de campagne et je voulais aller au lycée à Angers. Je devais pour cela choisir une troisième langue. Je désirais faire de l'italien. Ma famille maternelle avait immigré d'Italie dans les années 20, mais mes professeurs m'avaient conseillé de choisir une langue rare, une langue difficile. L'italien, je pourrais toujours l'apprendre plus tard et beaucoup plus facilement que le russe, disait-il. En fin de compte, je n'ai jamais appris l'italien et je n'ai jamais regretté le russe. Je me demande souvent ce qu'aurait été ma vie sans la découverte de la langue, du pays, de la culture russe. Je me sens russe parfois. C'est un peu bête à dire. D'ailleurs, je ne le dis pas souvent. Fatiguée à l'avance par ce que tout un chacun peut avoir comme préjugé sur la Russie. Je sais ce que j'y aime, ce que j'y ai trouvé. Et cela me suffit. On était une dizaine dans la petite salle de russe au dernier étage du lycée Joachim du Bellay. Madame Peroni collait des personnages en carton sur un tableau de feutre. Mes camarades et moi nous regardions en souriant. Maxime. Chauffeur. Igor, journaliste. Maxime est chauffeur. Igor est journaliste. C'étaient les personnages du manuel reportage avec lesquels on entrait dans la langue. Pendant 2 ans, nous avons attendu notre voyage en Russie, l'échange avec l'école Romain Rolland de Moscou, les noms de nos correspondants, le départ en car vers Paris, le premier atterrissage, et la voix répétant « Moskva Sheremetyeva ». Qui me fait toujours monter les larmes aux yeux quand l'avion se pose sur le tarmac. Je me revois, un peu sonnée, arriver chez ma correspondante Alina, l'entendre me décrire Notre-Dame avec les mots de Victor Hugo qu'elle avait appris par cœur, me demander si j'étais déjà allée à Saint-Tropez, car la série Sous le soleil faisait un carton en Russie, comme Hélène et les garçons, Patricia Cass et Mireille Mathieu. Je me revois aussi descendre du car qui transportait tout notre petit groupe d'une visite à l'autre et découvrir la place rouge sous la neige. On était en février 2002. J'avais les joues roses, 17 ans, le cœur qui battait et qui me répétait de ne jamais oublier ce que je ressentais. Les années ont passé, mais j'éprouve toujours le même sentiment chaque fois que je retrouve la place rouge. Cela n'a pas beaucoup de sens puisque j'ai vécu 18 mois à Moscou, que j'y suis retournée environ tous les 2 ans depuis et que je me suis rendue des centaines de fois dans le centre de la capitale pour descendre à la station Rotny Riad, à quelques pas du Kremlin. Mais rien n'y fait.